Alors, c'est évident, même si vous n'êtes pas spécialement connaisseur de ce style de musique, en entendant ça, vous êtes sûrement plein à vous être dit « Ah mais oui, mais je connais, mais c'est quoi? C'est une pub de bagnole? Mais non, ça fait penser à un tube des années 2000, mais en fait, c'est pas exactement pareil. » Alors bon, il y a une source que vous êtes sûrement très nombreux à connaître, c'est le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Un film resté un classique, 25 ans après sa sortie en 1994. Je rappelle qu'il avait eu la Palme d'Or, et la musique qu'on vient d'entendre, eh bien c'est celle qui accompagne le générique du début. Il s'agit d'un instrumental enregistré en 1962, peut-être pas d'hier, par le guitariste californien Dick Dale, un titre qui s'appelle Messer Lou. Alors pourquoi le diffuser ce soir? Eh bien parce qu'on a appris hier, avant-hier très exactement, la mort à 81 ans de ce musicien qui est à la source mais d'un immense courant, mais qu'est-ce que je dis, d'un fleuve, d'un delta aux multiples bras dans l'histoire du rock'n'roll. L'influence de Dick Dale et de ce son de guitare tellement particulier, marqué par cet effet universellement connu qu'on appelle la réverb, la réverbération sonore, et ce jeu en staccato où les notes comme ça sont très déliées, se retrouve à peu près partout et pas que dans le rock'n'roll au sens strict et étroit du terme. Jimi Hendrix s'est réclamé de Dick Dale, le légendaire guitariste de blues texan Stevie Ray Vaughan également, jusqu'à Jack White avec les White Stripes. Mais pas seulement bien sûr, parce que Dick Dale, ainsi que le genre qu'il a contribué à créer et qu'on a appelé le surf rock, ont imprégné en profondeur le rock dit garage des années 60 et puis le punk rock aussi dans son sillage, sans oublier le hard rock. Bref, Dick Dale a ouvert une brèche immense dans les procédés d'amplification de la guitare électrique. Sans ses intuitions, sans ses inventions, le rock n'aurait tout simplement pas eu le même visage. Alors pour toutes ces raisons, on va rendre ce soir hommage à Dick Dale et on va prendre la mesure de l'étendue de son influence. Alors avant ça, deux mots sur cette mélodie endiablée qu'on vient d'entendre, donc de 62, Messer Lou, par laquelle on a ouvert le Very Good Trip du soir. Alors même si vous n'êtes pas musicien, c'est mon cas, mais que vous avez un peu d'oreille, vous entendez tout de suite que cette mélodie a un parfum moyen-oriental. Et de fait, il ne s'agit pas que de parfum. C'est un air qui circulait au début du XXe siècle dans à peu près tout l'Empire ottoman. On l'entendait en Égypte, au Liban, en Arménie, en Turquie, et c'est en Grèce qu'une première version en a été enregistrée dans les années 1920. Bon, il faut savoir qu'en fait, Dick Dale ne s'appelait pas du tout Dick Dale. Son nom véritable était Richard Mansour. Richard Mansour, il devait dire. Mansour, un nom, un prénom aussi d'ailleurs, un arabe. De fait, son père était un Libanais qui était arrivé à Boston dans les années 1930 pour y travailler comme mécanicien dans l'industrie aéronautique. Et là-bas, à Boston, il avait épousé une Polonaise. La famille s'était ensuite établie, c'était au milieu des années 50, à El Segundo, c'est un quartier balnéaire de Los Angeles, c'est juste au-dessus, au sud de Santa Monica. Et c'est là que le jeune Richard, dit Dick, s'adonnait à sa passion, le surf. Et oui, la musique en était pour lui évidemment une autre. Très tôt, encouragé par son père, musicien et réalisateur artistique à 16 heures, eh bien le garçon a appris à jouer du ukulélé, de la trompette et de la batterie. D'ailleurs, à la batterie, son modèle était le batteur de jazz Gene Krupa, qui recourait volontiers à des rythmes tribaux et hypnotiques. Alors, en ce qui concerne la guitare, c'est particulier parce que Dick, qui était gaucher, a appris à jouer sur un instrument de droitier, le mi grave, se retrouvant ainsi en bas. Il paraît d'ailleurs que Jimi Hendrix a appris de cette façon-là. Toujours est-il que Dick Mansour est précoce, il participe à des espèces de crochets à la radio alors qu'il a quoi, 15 ans, et un disque jockey lui trouve le pseudonyme de Dick Dale, hein, ça fait plus local. Dick Dale donc se produit avec son groupe les Deltones au Rendezvous Ballroom, c'est une discothèque qui se trouve sur la péninsule de Balboa, c'est à l'extrême sud de Los Angeles. C'est un spot favori des surfeurs, les surfeurs qui pratiquent ce sport qui au début des années 60 va devenir une mode nationale puis internationale. Dick Dale et son groupe jouent en effet pour ces surfeurs un rock'n'roll instrumental, principalement, hein, parce qu'il chantait aussi parfois, enfin, c'est pas pour ça que l'histoire l'a retenu, un rock'n'roll instrumental aux caractéristiques particulières à l'origine d'un style donc particulier qu'on désignera comme le surf rock. Alors bien sûr, le surf rock ne naît pas de rien, il y a eu des précurseurs comme Duane Eddy à Phoenix dans l'Arizona, un véritable inventeur en matière de son. Il y avait aussi les Ventures, un groupe instrumental du nord de la côte ouest américaine, et puis aussi Link Wray, qui était un des guitaristes préférés de Bashung, qui était lui plutôt du sud-est des États-Unis. Alors, je vais vous raconter tout à l'heure comment Dick Dale a apporté sa pierre à l'édifice, mais tout de suite, je voudrais vous livrer le témoignage d'un musicien qui a l'âge d'être le fils de Dick Dale, c'est Jack White, le cofondateur des White Stripes à la fin des années 90. Je le cite. « J'ai passé de longs moments dans ma chambre d'adolescent à apprendre ses plans de guitare reverb et j'adore jouer un de ses morceaux, Nitro, dès que l'occasion se présente. Et quand j'avais 16 ans, j'ai fait le voyage de Détroit à Pontiac juste pour voir jouer Dick Dale. » Alors voilà, il en est resté quelque chose quand, une quinzaine d'années plus tard, Jack White a enregistré pour l'ultime album des White Stripes, Icky Thump, qui est sorti en 2007, cette chanson assez inattendue, au riff répétitif et envoûtant, Conquest, l'adaptation d'un standard. Pardon. C'est pas du surf rock, non, mais il y a un côté très prenant, très hypnotique, qui évoque Dick Dale, sans parler des éclats de cuivre qui rappellent Messer Lou et la Méditerranée.
C'est faible.
Tout le monde, ou presque, connaît cette chanson, une des plus ineptes et géniales à la fois de l'histoire du rock, Surf and Bird. Elle remonte au début de l'année 1964 et c'est un des succès les plus bizarres de la période. Les Trashmen, c'est-à-dire les éboueurs, n'avaient rien de surfeur, ni même d'ailleurs de californien. Il s'agissait d'un groupe du Midwest américain, de Minneapolis pour être précis. Le batteur Steve Warrer s'était amusé, c'était au cours d'une répétition, à brailler à tue-tête deux airs d'un groupe vocal californien, les Rivingtons, The Bird's the Word, hein, l'oiseau c'est le mot de passe, et puis une sorte de comptine, quoi, et puis le plus connu, qui avait été d'ailleurs un tube en son temps, Papa Mau Mau, c'était une succession d'onomatopées sans queue ni tête. Alors quand les Trashmen ont décidé de reprendre ça devant un public, leur public de lycéens, ben ça a été la folie. Un producteur local les a entraînés en studio, l'enregistrement est devenu un 45 tours et de succès local, déjà improbable, Surf and Bird est devenu un tube national, improbable mais vrai, surtout quand on entend cette production à l'amateurisme déconcertant, devenue comme par accident la matrice de tout un courant du rock garage puis punk. En tout cas, c'était le signe que le surf rock en 1963, était devenu un phénomène qui allait bien au-delà d'un public de surfeurs californiens. Mais c'était devenu un son, une vibration et même une esthétique. Alors, on va dissiper un malentendu, les sonorités de guitare à la reverb caverneuse, propre donc à ce qu'on appelle le surf rock, n'ont que très peu de choses à voir avec les débuts, par exemple, des Beach Boys. Oui, le groupe de Brian Wilson s'est lancé à la faveur de cette mode, cette folie du surf. Il a bien repris à ses débuts un titre de Dick Dale, Let's Go Trippin', et Brian Wilson d'ailleurs a rendu hommage à Dick Dale en apprenant sa disparition. Mais enfin, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les liens des Beach Boys avec le surf rock en tant que genre musical. Alors revenons à Dick Dale et ce qu'il a apporté précisément. Alors il faut savoir qu'il avait pour voisin à Los Angeles nul autre que Leo Fender. Ben oui, Fender, ça vous dit quelque chose, c'est un luthier célèbre qui était d'origine grecque, ami de son père. Et Fender, à l'origine, qui était un modeste électricien qui réparait des postes de radio, enfin des TSF comme on disait, eh bien il avait eu le premier l'idée d'équiper des guitares hawaïennes et slide de petits micros miniaturisés. Il avait ainsi complété l'amplification de la guitare électrique qui existait déjà bien sûr avant lui. Fender fut en effet le premier luthier à créer des caisses pleines et fines, alors que celles des Gibson, qui étaient encore creuses, avaient un corps massif. Et grâce au modèle de Telecaster, puis de Stratocaster, eh bien les guitares Fender allaient connaître un succès considérable dans les années 60. Elles sont inséparables évidemment du développement du rock en tant que mode mondial. Dick Dale, il faut le savoir, a eu un rôle essentiel dans le développement des guitares Fender. Il voulait que sa guitare évoque le fracas d'un rouleau, d'une vague de surf. Alors il a d'abord utilisé une Stratocaster montée de cordes d'un tirant très fort. Il a demandé à son voisin, Leo Fender, de fabriquer des amplis Showman, puis Dual Showman, d'une puissance qui était encore inconnue, 180 watts, qu'il montait à fond. À la grande épouvante d'ailleurs de Leo Fender. C'était inspiré par l'amplification des orgues Hammond pour être précis, Dick Dale a aussi mis au point une chambre de réverbération. Alors toute cette soirée sur France Inter, on va évoquer Dick Dale et l'écouter bien sûr à nouveau, mais aussi prendre la mesure de l'influence du surf rock que ce Dick Dale a donc largement contribué à créer sur d'autres styles. Vous avez entendu tout à l'heure les Trashmen, eh bien voici leurs enfants naturels une quinzaine d'années plus tard, les Cramps dans Garbage Man. Éboueur, un de leurs premiers titres à la fin des années 70, le côté punk et sexuel du surf rock qui est manifeste dans le titre. On y reviendra.
Yeah.
Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, un instrumental, signé en 1962 par Link Wray. Alors si vous avez écouté notre série d'émissions sur les influences de Bashung dans Very Good Trip sur France Inter, c'était la semaine dernière, et bien sûr le nom de ce guitariste ne vous a pas échappé. Un musicien, je vous le disais alors, qui aimait rester dans l'ombre, entouré d'un certain mystère et qui se produisait sur scène en costume de cuir noir et lunettes noires, l'air menaçant et impénétrable. Link Wray, je vous le disais, avait été un des premiers, c'était au début des années 60, à expérimenter sur le son de la guitare. Il avait converti d'ailleurs un poulailler en studio 3 pistes et c'est là qu'il avait travaillé l'écho, la réverbération et la distorsion à une époque où tout ça tenait encore évidemment du bricolage. Alors il y a certainement eu entre Link Wray, qui était à l'autre bout du pays, la Caroline du Nord, et Dick Dale, qui lui était à Los Angeles, une sorte d'émulation, en tout cas de télépathie. D'ailleurs, il ne faut pas oublier non plus un autre guitariste, Duane Eddy, lui aussi californien, encore vivant d'ailleurs, c'est le seul des trois, auteur du thème célèbre de Peter Gunn, son style dit twangy, tremblé à la guitare, a une immense influence sur tous les guitaristes de rock'n'roll et de country aussi. Ça a commencé avec Hank Marvin des Shadows, et puis bien sûr George Harrison avec les Beatles. Dick Dale avait quelque chose de différent, quelque chose de joyeux, sauvage, presque sexuel. Voici d'ailleurs ce qu'il déclarait en 1996 à l'hebdomadaire anglais New Musical Express, le fameux NME. « Je faisais monter un rythme hypnotique à la guitare. Je savais que la musique, c'était du sexe. » Alors, je vous parlais de l'influence que Dick Dale a également eue sur le hard rock. Oui, c'est logique, évidemment, quand on parle d'amplification de la guitare, le hard rock pointe son nez. Vous allez tout de suite en découvrir une illustration sonore dans ce titre qui s'appelle « Out of Love Again », qui est signé par le groupe californien Van Halen à la fin des années 70. Eddie Van Halen, le guitariste du groupe, a eu l'occasion de dire tout ce qu'il devait à Dick Dale, en particulier dans sa quête de nouveaux sons à la guitare. Un autre guitariste, sans doute le plus grand de tous les temps, je parlais de Jimi Hendrix, a également emprunté une partie de son style à Dick Dale, il l'a dit. En particulier, c'est une manière de faire monter un groove hypnotique et de sculpter à la guitare des sonorités inédites. Et selon une légende, qui est sans doute vraie, je ne sais pas, Hendrix aurait été profondément marqué par un concert que Dick Dale a donné à ses débuts, qui était encore au rendez-vous ballroom de Balboa au sud de Los Angeles. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le titre que vous entendrez après Van Halen, titre signé Hendrix, Third Stone from the Sun, qui est extrait de son premier album avec le trio The Jimi Hendrix Experience, l'album s'appelait Are You Experienced, eh bien ce titre doit quelque chose à Dick Dale. Et d'ailleurs, Dick Dale lui-même a repris ce titre plus de 20 ans après la mort de Hendrix. Tout de suite, Out of Love Again, le groupe Van Halen en 79.
Sur France Inter, Mishka Assayas.
Thank you.
Third Stone from the Sun, un titre extrêmement psychédélique et carrément expérimental, signé Jimi Hendrix en 1967, tiré de son premier album avec son trio l'Experience. Bah, je sais, c'était un peu long, mais enfin, on ne coupe pas Hendrix, c'est comme ça. Un titre que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Dick Dale, dont on célèbre la mémoire ce soir, a repris dans son dernier album important qui était paru en 1996. Alors, il y a d'autres musiciens de premier plan auprès de qui Dick Dale a joué le rôle de maître. Il y avait notamment Scott Gorham, un guitariste californien qui a forgé le son d'un des meilleurs groupes de hard rock des années 70. Je veux parler de Thin Lizzy, qui était animé par un Irlandais métis, Phil Lynott, qui avait un swing plein d'élégance. Et puis, il a profondément influencé Dick Dale, l'immense guitariste de blues texan Stevie Ray Vaughan, disparu prématurément il y a près de 30 ans déjà. Les Stones, comme David Bowie, le considéraient comme le meilleur de sa génération. Vous le savez sans doute, c'est Stevie Ray Vaughan qui est l'auteur du solo dans le célèbre Let's Dance de Bowie. Pour les besoins de la BO d'un film, Back to the Beach, un film de 1987, eh bien, Dick Dale et Stevie Ray Vaughan s'étaient associés pour reprendre un titre qui s'appelait Pipeline, un titre dont l'origine était de 1963. C'était pas de Dick Dale à l'origine, mais c'était le style de Dick Dale l'avait inspiré aux Chantays, un groupe californien du sud de Los Angeles, et le résultat fut explosif. Nitro, un titre tardif signé Dick Dale, c'était en 1993, un titre que Jack White aime encore reprendre sur scène à l'occasion. Alors si le nom de Dick Dale, dont je vous le rappelle, on a appris la disparition il y a quelques jours, ne vous dit rien, alors que son style à la guitare a façonné les sons du rock'n'roll, du hard rock, du rock garage et du punk rock, eh bien il y a quelques raisons à ça. C'est que Dick Dale a très peu voyagé hors du continent américain. Il n'a quitté la Californie du Sud que pour des tournées aux États-Unis et c'est à peu près tout. Il avait, faut le dire, une santé fragile et en même temps une volonté de faire. Alors déjà, quand il était âgé d'une petite trentaine d'années, à la fin des années 60, il avait appris qu'il était atteint d'un cancer du côlon. Il en a réchappé. Alors par la suite, pétri de spiritualité, pratiquant les arts martiaux, Dick Dale s'est très tôt passionné pour la protection des animaux et l'écologie quand c'était pas encore à la mode. D'ailleurs, il y a une trentaine d'années, après avoir épousé une jeune femme qui avait 30 ans de moins que lui, eh bien, il s'était installé dans un ranch où il avait accueilli, paraît-il, des lions, des tigres, des léopards, des ours, même des gorilles. Et enfin, par la suite, il aurait gardé, enfin, c'est plus courant que des chevaux et des chiens. Alors, en tout cas, en 1994, l'utilisation par Tarantino de son Monsieur Lou a relancé Dick Dale et l'a fait découvrir par toute une nouvelle génération. Il s'est remis à enregistrer, il est reparti en tournée avec d'autant plus d'acharnement que, encore une fois, la médecine l'avait condamné. En effet, il y a plus de 20 ans, on lui avait dit qu'il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Et bien, 20 ans après, il était toujours là. Et Dick Dale, d'ailleurs, avouait encore, il y a 3 ans, au site Ultimate Classic Rock, qu'il était obligé de continuer à donner des concerts pour payer son traitement médical qui lui coûtait $3,000 par mois. Alors vous savez sans doute qu'aux États-Unis, l'assurance maladie n'est pas obligatoire et que eh bien chacun doit se débrouiller comme il peut. Dick Dale a fait face avec un immense courage. Alors comme je vous le disais, eh bien son influence était partout, y compris là où on ne s'y serait pas attendu, sur le guitariste anglais Johnny Marr avec les Smiths. C'est flagrant dans ce titre extrait de l'ultime album du groupe paru en 1987, Strange Ways Here We Come. La chanson s'appelle Death at One's Elbow. Les Smiths en 1987, Death at One's Elbow, un titre de toute évidence influencé par Dick Dale, qui a une influence subliminale sur Johnny Marr. J'aurais voulu vous passer évidemment le titre des Black Eyed Peas en 2005, le fameux Pump It, qui a utilisé un large échantillon du Mr. Lou de Dick Dale, mais voilà, hélas, les heures, donc 60 minutes et l'émission, puis en plus il y a de la publicité, alors je vous raconte pas. Alors encore une fois, à pouvoir apprécier le génie de ce guitariste trop méconnu. J'espère que cette émission vous aura donné envie d'en connaître davantage. On se quitte donc en la compagnie de Dick Dale sur scène lors d'un concert récent donné à Santa Monica. Il avait toujours, vous allez l'entendre, le feu sacré. Dick Dale dans Let's Go Trippin' et Shake and Stomp enchaîné. Et puis à titre de 1996 pour finir, Gypsy Fire. Let's go,
Véritable Trip sur France Inter, Mishka Assayas.